From the conference center at Temple Square in...
Ici, le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à la 181e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.
President Henry B. Eyring,
Henry B. Eyring, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session.
Brothers and sisters,
mes frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue cet après-midi à la cinquième et dernière session de la 181e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Thomas S. Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous adressons nos salutations et donnons notre bénédiction aux membres de l'Église et aux nombreux amis de partout qui suivent cette session à la radio, à la télévision, sur l'Internet ou par satellite. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle sous la direction de Mac Wilberg et de Ryan Murphy, avec Linda Margetts et Bonnie Goodliff à l'orgue. Nous allons maintenant entendre le chœur chanter « Je vis un ange qui volait », puis José A. Teixeira, des 70, fera la prière d'ouverture. Le chœur chantera ensuite « Jésus-Christ est mon modèle ».
Our Father in heaven,
notre Père qui es aux cieux, nous te remercions pour la grande bénédiction de cette conférence générale, pour les membres de l'Église et les amis de l'Église qui peuvent ainsi recevoir le pouvoir guérisseur de la parole des prophètes. Nous sommes reconnaissants vers des missionnaires de par le monde et nous te demandons de nous bénir afin que nous puissions recevoir une portion additionnelle d'amour vers nos prochains, pour que nous puissions renouveler et accroître notre foi et de chercher les occasions à servir les autres et de partager le message de l'Évangile avec ceux qui nous entourent. Nous te demandons, Père, de bénir notre prophète bien-aimé, Thomas S. Monson. Ces deux conseillers dans la première présidence et le Collège des douze apôtres. Et nous te prions tous ensemble, avec un cœur reconnaissant pour toutes les bénédictions qui sont les nôtres. Et nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Amen.
Notre premier orateur cet après-midi sera Richard G. Scott du Collège des Douze Apôtres. Il sera suivi de D. Todd Christofferson du Collège des Douze Apôtres. Après le discours de Frère Christofferson, nous entendrons Carl B. Pratt des 70.
That beautiful message by this magnificent choir.
Ce message formidable par ce chœur. Le 16 juillet 1953, le jeune couple que formaient ma chère Jeannine et moi s'est agenouillé à l'autel du temple de Manti. Lewis R. Anderson exerça l'autorité de scellement et nous déclara mari et femme, mariés pour le temps et pour l'éternité. Il m'est impossible de décrire la paix et la sérénité que j'éprouve d'avoir l'assurance que si je continue de vivre dignement, je pourrai être avec ma chère Jeannine et nos enfants pour toujours, grâce à cette ordonnance sacrée accomplie par l'autorité appropriée de la prêtrise dans la maison du Seigneur. Nos sept enfants sont liés par les ordonnances sacrées du temple. Ma précieuse femme, Jeannine, et deux de nos enfants sont de l'autre côté du voile. Ils sont une grande motivation pour chaque membre en vie de notre famille de vivre de façon à ce que nous recevions ensemble toutes les bénédictions éternelles promises dans le temple. Deux des piliers essentiels qui soutiennent le plan de bonheur de notre Père Céleste sont le mariage et la famille. Leur haute importance est soulignée par les efforts acharnés de Satan pour briser la famille et saper l'importance des ordonnances du temple qui unissent la famille pour l'éternité. Le scellement dans le temple prend une signification plus grande au fil de la vie. Il vous aidera à vous rapprocher constamment l'un de l'autre et à trouver une plus grande joie et un plus grand épanouissement dans la condition mortelle. Un jour, ma femme m'a donné une leçon importante. Je voyageais beaucoup de par ma profession. J'étais parti presque 2 semaines et j'étais rentré à la maison un samedi matin. Il me restait 4 heures avant de devoir me rendre à une autre réunion. J'ai remarqué que notre petite machine à laver était tombée en panne et que ma femme lavait le linge à la main. J'ai commencé à réparer la machine. Jeannine est passée et m'a dit « Rich, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai dit « Je répare la machine à laver pour que tu n'aies pas à laver à la main. » Elle a dit « Non, va jouer avec les enfants. » J'ai dit « Je peux jouer avec eux à n'importe quel moment. Je veux t'aider. » Alors elle a dit « Richard, s'il te plaît, va jouer avec les enfants. » Quand elle m'a parlé de cette façon autoritaire, j'ai obéi. J'ai passé un moment merveilleux avec nos enfants. Nous avons joué à nous attraper et nous avons roulé dans les feuilles d'automne. Plus tard, je me suis rendu à ma réunion. J'aurais probablement oublié cette expérience sans la leçon que Jeannine voulait que j'apprenne. Le lendemain matin, vers 4 heures, j'ai été réveillé par 2 petits bras autour de mon cou, un baiser sur la joue. Et ces mots murmurés à l'oreille que je n'oublierai jamais. « Papa, je t'aime. Tu es mon meilleur ami. » Si vous n'avez pas ce genre d'expérience dans votre famille, vous ratez l'une des joies célestes de la vie. Si vous êtes un jeune homme en âge de vous marier et ne l'êtes pas encore, ne perdez pas votre temps à des occupations vaines. Avancez dans la vie et fixez-vous le but de vous marier. Ne traversez pas en roue libre cette période de la vie. Jeunes gens, faites une mission digne. Ensuite, que votre plus grande priorité soit la recherche d'une épouse éternelle. Quand vous voyez que vous vous intéressez à une jeune fille, montrez-lui que vous êtes une personne exceptionnelle. qu'elle aurait intérêt à mieux connaître. Emmenez-la dans des endroits intéressants. Faites preuve de créativité. Si vous voulez avoir une femme merveilleuse, vous devez faire en sorte qu'elle voit en vous un homme merveilleux et un futur mari. Si vous avez trouvé quelqu'un, vous pouvez avoir des fiançailles et un mariage merveilleux. Et vous pouvez être éternellement très très heureux en restant dans les limites de dignité que le Seigneur a fixées. Si vous êtes marié, êtes-vous fidèle à votre épouse mentalement, aussi bien que physiquement? Êtes-vous loyaux à votre alliance du mariage en ne vous livrant jamais à une conversation avec une personne que vous ne voudriez pas que votre conjoint entende? Êtes-vous gentil et soutenez-vous votre femme et vos enfants? Frères, prenez-vous la direction des activités familiales telles que l'étude des Écritures, la prière familiale et la soirée familiale, ou bien est-ce que votre femme qui comble le vide que votre manque d'attention laisse au foyer? Dites-vous souvent à votre femme à quel point vous l'aimez. Cela lui procurera beaucoup de bonheur. Quand je dis cela, j'ai entendu des hommes répondre « Oh, elle le sait ». Vous devez le lui dire. Cette assurance renouvelée épanouit une femme. Elle la fait progresser et lui fait énormément de bien. Exprimez souvent cet amour et cette reconnaissance. Cela rendra la vie plus belle, plus agréable et plus pleine de sens. Ne la privez pas de ces expressions naturelles d'amour. Et cela marche beaucoup mieux si vous la tenez contre vous pendant que vous le lui dites. Ma femme m'a appris l'importance de s'exprimer. Au début de notre mariage, j'ouvrais souvent mes écritures pour donner un message et je trouvais un mot de Janine, plein d'affection et de soutien, glissé entre les pages. Parfois, c'était si tendre que je pouvais à peine parler. Ces mots précieux d'une femme aimante étaient et continuent d'être un trésor inestimable de réconfort et d'inspiration. J'ai commencé à faire la même chose avec elle, sans me rendre compte de tout ce que cela signifiait pour elle. Je me souviens d'une année où nos moyens ne me permettaient pas de lui offrir un cadeau pour la Saint-Valentin. Alors j'ai décidé de peindre une aquarelle sur la porte du réfrigérateur. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Seulement, j'ai fait une erreur. C'était de la peinture émail et non de la peinture à l'eau. Elle ne m'a jamais laissé essayer d'enlever cette peinture permanente. Je me souviens d'un jour, j'ai pris des confettis obtenus en perforant du papier et je les ai numérotés de 1 à 100. Sur l'envers de chacun, j'ai écrit un message, un mot sur chaque rond. Je les ai ensuite rassemblés et mis dans une enveloppe. Je me suis dit qu'elle allait bien rire. Quand elle est décédée, j'ai découvert dans ses objets personnels à quel point elle appréciait les messages simples que nous nous échangions. J'ai remarqué qu'elle avait précautionneusement collé chacun de ses petits ronds sur un morceau de papier. Non seulement elle avait gardé les mots que je lui avais écrits, mais elle les avait aussi plastifiés comme si c'était un trésor inestimable. Il n'y en avait qu'un seul qu'elle n'avait pas mis avec les autres. Il se trouve toujours derrière la vitre de la pendule de la cuisine. Il dit « Janine, il est temps que je te dise que je t'aime ». Je l'ai laissé là pour me rappeler constamment de cette fille exceptionnelle de notre Père Céleste. Quand je repense à notre vie ensemble, je mesure à quel point nous avons été bénis. Nous n'avons pas eu de querelle au foyer, ni de mots durs l'un pour l'autre. Maintenant, je me rends compte que c'est grâce à elle. Cela découlait de sa volonté de donner, de partager et de ne jamais penser à elle. Plus tard, dans notre vie commune, j'ai essayé d'imiter son exemple. Je vous suggère, mari et femme, de faire de même chez vous. L'amour pur est une force bénéfique incomparable et puissante. L'amour juste est le fondement d'un mariage réussi. Il est la cause principale du bon développement d'enfants heureux. Qui peut mesurer exactement l'influence juste de l'amour d'une mère ? Quels fruits durables proviennent des semences de vérité qu'une mère sème soigneusement et cultive avec amour dans le sol fertile de l'esprit du cœur confiant d'un enfant ? En tant que mère, vous avez reçu des instincts divins pour vous aider à ressentir les talents spéciaux et les capacités uniques de votre enfant. Avec votre mari, vous pouvez nourrir et fortifier ses traits et les faire épanouir. C'est tellement enrichissant d'être marié. Le mariage est merveilleux. Avec le temps, vous commencez à penser de la même façon et à avoir les mêmes idées et les mêmes impressions. Il y a des moments de joie extrême, des moments de mise à l'épreuve, des moments difficiles. Mais le Seigneur vous guide ensemble à travers toutes ces expériences qui font grandir. Une nuit, Richard, notre petit garçon, qui avait un problème au cœur, s'est réveillé en pleurant. Nous l'avons entendu tous les deux. D'habitude, ma femme se levait toujours pour s'occuper du bébé quand il pleurait. Mais cette fois, j'ai dit « je m'occupe de lui ». À cause de son problème, son petit cœur battait très vite et très fort. Quand il commençait à pleurer, il vomissait et salissait les draps. Cette nuit-là, je l'ai pris tout contre moi et j'ai essayé de calmer son cœur et de le faire cesser de pleurer pendant que je changeais ses vêtements et ses draps. Je l'ai tenu jusqu'à ce qu'il s'endorme. Je ne savais pas alors que quelques mois plus tard seulement, il allait décéder. Je me souviendrai toujours de l'avoir tenu dans mes bras au milieu de la nuit. Je me souviens bien du jour où il est décédé. Tandis que nous revenions de l'hôpital, Janine et moi, nous nous sommes arrêtés au bord de la route. Je l'ai prise dans mes bras. Nous avons pleuré, mais nous savions que nous le retrouverions de l'autre côté du voile, grâce aux alliances que nous avions faites dans le temple. Cela rendait sa perte un peu plus facile à accepter. La gentillesse de Janine m'a enseigné des leçons précieuses. Je manquais tellement de maturité et elle était si disciplinée et si spirituelle. Le mariage fournit le cadre idéal pour surmonter toute tendance à l'égoïsme ou à l'égocentrisme. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles on nous recommande de nous marier jeunes est de nous éviter d'acquérir de mauvais traits de caractère qui sont difficiles à changer. Je plains les hommes qui n'ont pas encore fait le choix de chercher une épouse pour l'éternité. Et j'ai la plus profonde compassion pour les sœurs qui n'ont pas encore eu l'occasion de se marier. Certaines d'entre elles se sentent peut-être solitaires et peu appréciées et ne voient pas comment elles vont pouvoir avoir les bénédictions du mariage et des enfants ou leur famille à elles. Tout est possible pour le Seigneur et il tient les promesses qu'il inspire ses prophètes à déclarer. L'éternité dure longtemps. Ayez foi en ses promesses et vivez de manière à en être digne, afin que le Seigneur les réalise en son temps dans votre vie. Vous recevrez à coup sûr sur toutes les bénédictions promises dont vous êtes digne. Veuillez me pardonner d'avoir parlé de ma chère femme Janine, mais nous sommes une famille éternelle. Elle a été toujours joyeuse et c'est dû principalement au service qu'elle rendait aux autres. Mais quand elle était malade, elle demandait à son Père Céleste, dans ses prières matinales, de la guider vers quelqu'un qu'elle pourrait aider. Cette supplication sincère a été exaucée à maintes reprises. Beaucoup ont eu leur fardeau allégé, leur vie a été illuminée. Elle a constamment été bénie parce qu'elle était un instrument guidé par le Seigneur. Je sais ce que c'est d'aimer une fille de notre Père Céleste qui, avec grâce et dévouement, a vécu dans toute la splendeur d'une féminité pleine de justice. Je suis certain que lorsque, dans notre futur, je la reverrai de l'autre côté du voile, nous nous rendrons compte que nous sommes devenus encore plus profondément amoureux. Nous nous apprécierons l'un l'autre encore davantage après avoir passé ce temps séparés par le voile. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Our Heavenly Father,
notre Père céleste est un Dieu qui attend beaucoup de nous. Son Fils Jésus-Christ exprime ce que le Père attend de nous en ces termes. Je voudrais que vous soyez parfaits, tout comme moi, ou comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Il nous propose de nous rendre saints, afin que nous puissions supporter une gloire céleste et demeurer en sa présence. Il sait ce qui est requis. Et il donne ses commandements et ses alliances, le don du Saint-Esprit, et surtout l'expiation et la résurrection de son Fils bien-aimé, pour nous permettre de nous transformer. En tout cela, le dessein divin est que nous, ses enfants, nous puissions connaître la joie suprême, être avec lui éternellement, et devenir comme il est. Il y a quelques années, Elder Dallin H. Oaks a donné l'explication suivante. Le jugement dernier ne sera pas une simple évaluation de la somme des actions bonnes et mauvaises de ce que nous aurons fait. Ce sera la constatation de l'effet final de nos actions et pensées, de ce que nous serons devenus. Il ne suffit pas d'agir superficiellement. Les commandements, les ordonnances et les alliances de l'Évangile ne sont pas la liste des dépôts à faire sur un compte céleste. L'Évangile de Jésus-Christ est un plan qui nous montre comment devenir ce que notre Père Céleste désire que nous devenions. Fin de citation. Il est triste de constater que le christianisme moderne ne reconnaît pas que Dieu a des exigences réelles à l'égard des gens qui croient en lui, le considérant plutôt comme un majordome qui répond à leurs besoins et à la demande, ou comme un thérapeute qui a pour rôle d'aider les gens à se sentir bien dans leur peau. C'est une perspective religieuse qui n'a aucune prétention à changer la vie. Par contraste, déclare un auteur, le Dieu représenté dans les Écritures, tant hébraïque que chrétienne, demande non pas un simple engagement, mais notre vie entière. Le Dieu de la Bible traite de vie et de mort, et il exige un amour prêt au sacrifice et non un laxisme bienveillant. J'aimerais parler d'une attitude et d'une pratique que nous devons adopter si nous voulons répondre aux attentes élevées de notre Père Céleste. C'est celle-ci. Être disposé à accepter, voire à rechercher, la correction. Elle est essentielle si nous voulons conformer notre vie à l'état d'homme fait, c'est-à-dire à la mesure de la stature parfaite du Christ. À propos de la correction ou du châtiment divin, Paul dit « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime ». Bien que ce soit souvent difficile à supporter, nous devrions nous réjouir de ce que Dieu nous considère comme digne du temps et du mal qu'il se donne pour nous corriger. Le châtiment divin a au moins trois buts. Nous persuader de nous repentir, nous affiner, nous sanctifier et réorienter parfois notre vie vers ce que Dieu sait être une meilleure voie. Réfléchissez tout d'abord au repentir, condition nécessaire au pardon et à la purification. Le Seigneur a déclaré « Je reprends et châtie tous ceux que j'aime ». Et donc du zèle et repens-toi. Il a aussi dit, et il faut que mon peuple soit châtié jusqu'à ce qu'il apprenne l'obéissance, s'il le faut, par les choses qu'il endure. Dans une révélation moderne, le Seigneur commande à quatre hauts dirigeants de l'Église de se repentir, comme il pourrait le commander à beaucoup d'entre nous, de ne pas avoir enseigné correctement à leurs enfants à garder les commandements, et de ne pas être plus diligent et plus occupé chez eux. Dans le livre de Mormon, le frère de Jared se repentit quand le Seigneur se tint dans une nuée et parla avec lui pendant 3 heures et le réprimanda parce qu'il ne se souvenait pas d'invoquer le nom du Seigneur. Parce qu'il était tellement disposé à donner suite à cette réprimande sévère, le frère de Jared eut plus tard le privilège de voir le Rédempteur dans son état prémortel et d'être instruit par lui. Le fruit du châtiment du Seigneur est le repentir qui conduit à la justice. Outre le fait de stimuler notre repentir, l'expérience même de supporter le châtiment peut nous affiner et nous préparer à des bénédictions spirituelles supérieures. Le Seigneur a dit, « Mon peuple doit être mis à l'épreuve en tout, pour qu'il soit préparé à recevoir la gloire que j'ai pour lui, c'est-à-dire la gloire de Sion. Et celui qui ne supporte pas le châtiment n'est pas digne de mon royaume. » Il dit ailleurs, « Car tous ceux qui ne supportent pas le châtiment, mais me renient, ne peuvent être sanctifiés. » Comme Elder Paul Johnson a dit ce matin, nous devons prendre soin de ne pas avoir de ressentiment vis-à-vis des choses qui sont pour notre bien et pour notre nature divine. Les disciples d'Alma fondèrent une communauté de Sion à Élam, mais ils furent ensuite réduits en esclavage. Ils ne méritaient pas leur souffrance, tout au contraire, mais l'histoire dit, « Néanmoins, le Seigneur juge bon de châtier son peuple. Oui, il met à l'épreuve sa patience et sa foi. » Néanmoins, quiconque place sa confiance en lui sera élevé au dernier jour. Oui, et ainsi en fut-il de ce peuple. Le Seigneur fortifia les gens et allégea leurs fardeaux, au point qu'ils pouvaient à peine les sentir sur leur dos. Et puis, en temps voulu, il les délivra. Leur foi fut fortifiée sans mesure, grâce à cette expérience, et ils allaient dorénavant toujours jouir d'un lien spécial avec le Seigneur. Dieu utilise une autre forme de châtiment ou de correction pour nous guider vers un avenir que nous ne connaissons pas ou que nous ne pouvons pas imaginer maintenant, mais qu'il sait être ce qu'il y a de mieux pour nous. Elder Hubie Brown, ancien membre du Collège des 12 apôtres et conseiller dans la première présidence, a relaté une expérience personnelle. Il avait acheté de nombreuses années auparavant une ferme délabrée au Canada. Tandis qu'il procédait au nettoyage et à la réparation de sa propriété, il découvrit un groseiller qui avait poussé jusqu'à près de 2 mètres et qui ne donnait pas de baie. Il le tailla donc de manière radicale, ne laissant que 2 petits chicots. Il vit alors une goutte d'eau, semblable à une larme, sur chacun de ces petits chicots, comme si le groseiller pleurait. Et il crut l'entendre dire, « Comment as-tu pu me faire cela? J'avais merveilleusement bien poussé, et voici que tu m'as coupé complètement. » Toutes les plantes du jardin vont me regarder de haut. Comment as-tu pu me faire cela? Je pensais que tu étais le jardinier de ce jardin. » Frère Brown répondit, « Écoute, petit groseiller, c'est moi qui suis le jardinier ici, et je sais ce que je veux que tu sois. Je ne voulais pas que tu sois un arbre fruitier, ni un arbre qui fait de l'ombre. Je veux que tu sois un groseiller, et un jour, petit groseiller, quand tu seras chargé de fruits, tu diras, « Merci, jardinier, de m'avoir suffisamment aimé pour me tailler. » Des années plus tard, frère Brown était officier supérieur dans l'armée canadienne en service en Angleterre. Quand un officier supérieur tomba au combat, frère Brown était en bonne place pour le poste de général et fut convoqué à Londres. Mais malgré ses parfaites qualifications pour le poste, son avancement lui fut refusé parce qu'il était mormon. Le général commandant dit en substance, « Vous méritez ce poste, mais je ne peux pas vous le donner. » Ce que frère Brown espérait depuis 10 ans, ce pourquoi il avait prié et s'était préparé, lui échappait alors à cause d'une discrimination flagrante. Poursuivant son histoire, frère Brown dit, « Je suis monté dans le train et j'ai pris le chemin du retour, le cœur brisé et plein d'amertume. En arrivant à ma tente, j'ai jeté ma casquette sur ma couchette. J'ai serré les poings et les ai levés au ciel en disant, « Seigneur, comment peux-tu me faire cela ?» J'ai fait tout ce que je pouvais pour être à la hauteur. J'ai fait tout ce que je pouvais et ce que je devais. Comment as-tu pu me faire cela? J'étais au plus profond de l'amertume. Alors j'ai entendu une voix et j'en ai reconnu le ton. C'était ma voix et elle disait, « C'est moi le jardinier ici. Je sais ce que je veux que tu fasses. » L'amertume m'a quitté et je suis tombé à genoux à côté de mon lit pour demander pardon de mon ingratitude. Et maintenant, près de 50 ans plus tard, je lève les yeux vers Dieu et je dis « Merci, jardinier, de m'avoir aimé suffisamment pour me faire mal. » Dieu savait ce que Hubie Brown allait devenir et ce qui était nécessaire pour que cela arrive. Et il a réorienté sa vie pour le préparer au saint apostolat. Si nous désirons sincèrement être à la hauteur des exigences élevées de notre Père Céleste, il fera en sorte que nous recevions toute l'aide dont nous avons besoin, que ce soit en nous réconfortant, en nous fortifiant ou en nous corrigeant. Si nous y sommes ouverts, la correction nécessaire viendra de nombreuses manières et de nombreuses sources. Elle pourra se manifester pendant nos prières, quand Dieu parlera à notre esprit et à notre cœur par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Elle pourra venir sous la forme de prières auxquelles la réponse sera non ou différente de ce à quoi nous nous attendions. La correction peut venir pendant que nous étudions les Écritures et que nos manquements, notre désobéissance ou simplement nos négligences nous sont rappelés. La correction peut venir par l'intermédiaire d'autres personnes, surtout de personnes que Dieu inspire, pour favoriser notre bonheur. Les apôtres, les prophètes, les patriarches, les évêques et d'autres ont été mis dans l'Église actuellement, tout comme jadis, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Peut-être que certaines des choses dites pendant cette conférence vous sont parvenues comme pour vous appeler à vous repentir ou à changer, et que si vous y donnez suite, cela vous emmènera à un niveau plus élevé. Nous pouvons, nous, membres de l'Église, nous aider mutuellement. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles le Sauveur a créé une Église. Même devant les critiques mal intentionnées de gens qui ont peu d'égard ou d'amour pour nous, il peut être utile d'exercer suffisamment d'humilité pour les peser, les trier et en retirer tout ce qui peut nous bénéficier. La correction, gentille, nous l'espérons, peut venir de notre conjoint. Elder Richard G. Scott, qui vient de nous parler, se rappelle une occasion au début de son mariage où sa femme, Janine, lui a conseillé de regarder directement les gens quand il leur parlait. Elle a dit « Tu regardes par terre, tu regardes le plafond, la fenêtre, partout sauf dans leurs yeux. » Il a pris à cœur de suivre cette gentille remontrance et cela l'a rendu bien plus efficace dans ses conseils et son travail auprès des gens. Ayant été missionnaire à plein temps sous la direction du président Scott, je peux attester qu'il regarde bien dans les yeux pendant ses conversations. Je peux aussi ajouter que quand on a besoin d'être corrigé, ce regard peut être très pénétrant. Les parents peuvent et doivent corriger, même réprimander leurs enfants, s'ils ne veulent pas qu'ils s'égarent, laissés à la merci d'un adversaire impitoyable et de ses suppôts. Le président Boyd K. Packer a dit que quand quelqu'un est en position de corriger quelqu'un d'autre et qu'il ne le fait pas, il pense à lui-même. Rappelez-vous que la réprimande doit être faite en temps opportun, avec rigueur ou clarté, sous l'inspiration du Saint-Esprit, et faisant preuve ensuite d'un redoublement d'amour envers celui que vous avez réprimandé, de peur qu'il ne vous considère comme son ennemi. N'oubliez pas que si nous n'acceptons pas qu'on nous corrige, les autres risquent de ne pas continuer à le faire, malgré leur amour pour nous. Si nous persistons à ne pas tenir compte de la réprimande d'un Dieu aimant, lui aussi cessera de le faire. Il a dit « Mon esprit ne luttera pas toujours avec l'homme ». En fin de compte, une grande part de notre correction doit venir de l'intérieur. Nous devons commencer à nous corriger nous-mêmes. Une des manières dont notre cher collègue décédé, Joseph B. Worthlin, est devenu le disciple pur et humble qu'il était, était qu'il analysait sa manière de s'acquitter de chaque tâche. Dans son désir de plaire à Dieu, il avait résolu d'apprendre qu'il aurait pu faire mieux et d'appliquer ensuite diligemment chaque leçon apprise. Nous pouvons tous répondre aux attentes élevées de Dieu, aussi grandes ou réduites que soient nos capacités et nos talents. Moroni affirme, si vous vous refusez toute impiété et aimez Dieu de tout votre pouvoir, de toute votre pensée, de toute votre force, alors la grâce du Christ vous suffit, afin que par sa grâce, vous soyez parfaits dans le Christ. C'est par un effort diligent et dévoué de notre part que nous suscitons cette grâce qui nous donne pouvoir et capacité, effort qui comprend certainement notre soumission à la correction divine et notre repentir sincère et sans réserve. Prions pour avoir sa correction inspirée par l'amour. Puisse Dieu vous soutenir dans vos efforts pour répondre à ces exigences élevées et vous accorder la plénitude de bonheur et de paix qui en découle. Je sais que vous et moi, nous pouvons devenir un avec Dieu et avec le Christ. Je témoigne humblement et avec confiance de notre Père Céleste et de son Fils bien-aimé et du potentiel que nous avons grâce à eux. J'en rends témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je suis reconnaissant d'avoir des ancêtres épris de justice qui ont enseigné l'Évangile à leurs enfants au sein du foyer, longtemps avant que les soirées familiales officielles soient instituées. Mes grands-parents maternels s'appellent Ida Jesperson et John Awitten. Ils vivaient dans le village de Colonia Juarez à Chihuahua, au Mexique. Les parents Witten instruisaient leurs enfants par le précepte, mais aussi par l'exemple. Le début des années 1920 fut une période difficile au Mexique. Une violente révolution venait juste de se terminer. Il y avait peu d'argent liquide en circulation et la plus grande partie l'était sous forme de pièces d'argent. Les gens réglaient souvent leurs affaires en faisant du troc, en échangeant des denrées ou des services. Un jour, grand-père entra à la maison vers la fin de l'été après avoir conclu un marché. Une paire de bœufs compte 100 pesos en pièces d'argent. Il donna l'argent à Ida et lui dit de l'utiliser pour couvrir les frais de scolarité pour les enfants que les enfants allaient avoir. Ida était heureuse d'avoir cette somme, mais elle rappela à John qu'il n'avait pas payé la dîme de tout l'été. Il n'avait pas perçu de revenus en espèces, mais Ida lui rappela que les animaux leur avaient procuré de la viande, des œufs et du lait. Leur jardin avait produit des fruits, des légumes en abondance et s'était procuré d'autres denrées par le troc, sans avoir besoin d'argent liquide. Elle suggéra de donner l'argent à l'évêque pour payer leur dîme. John était un peu déçu, car cette somme aurait beaucoup aidé aux études des enfants. Mais il était tout à fait d'accord qu'il devait payer la dîme. Il porta le sac du bureau au bureau de la dîme et mit ses affaires en ordre avec l'évêque. Peu de temps après, il fut informé qu'un riche homme d'affaires, un certain Monsieur Horn, allait venir des États-Unis la semaine suivante, avec plusieurs hommes pour chasser et pêcher pendant quelques jours dans la montagne. Grand-père les accueillit à la gare située près de Colonia Juarez. Il avait les chevaux de selle et les baies de somme nécessaires pour assurer le transport de leurs bagages et de tout leur équipement dans les montagnes. Il passa la semaine suivante à guider ses hommes et à s'occuper du camp et des animaux. À la fin de la semaine, les hommes retournèrent à la gare prendre le train pour les États-Unis. John reçut ce jour-là le salaire de son travail, ainsi qu'un sac de pesos en argent pour couvrir les autres dépenses. Après avoir payé les hommes, John rendit l'argent restant à M. Hord, qui fut surpris, car il ne s'attendait pas à ce qu'il en reste. Il interrogea John pour s'assurer que tout avait été bien payé. Celui-ci lui répondit que c'était le cas et que cet argent était ce qui restait. Le train siffla. Monsieur Hord se tourna pour partir. Puis, il revint en arrière et lança le lourd sac plein de pièces à John. « Tenez, emportez tous donc cela chez vous pour vos garçons. » John attrapa le sac et rentra à Colonia Juarez. Ce soir-là, quand la famille se rassembla après le dîner pour écouter l'histoire du voyage, John se souvint du sac et l'apporta et le mit sur la table. Il dit qu'il ne savait pas combien d'argent il y avait dans le sac. Aussi, pour le plaisir, il vida le sac sur la table. Cela faisait un fameux tas. Il compta. Il avait exactement 100 pesos en pièces d'argent. Bien entendu, on considéra que c'était une grande bénédiction que M. Hord ait décidé de faire ce voyage. John et ses fils avaient gagné un bon salaire, mais les 100 pesos restants étaient un rappel de la somme payée par John la semaine précédente pour la dîme, et qui était exactement le même montant. Pour certains, cela aurait pu être une coïncidence intéressante, mais pour la famille Witten, c'était clairement une leçon du Seigneur, leur rappelant qu'il se souvient des promesses qu'il a faites aux gens qui paient fidèlement leur dîme. Quand j'étais enfant, j'adorais cette histoire à cause du voyage à dos de cheval et de camping dans la montagne pour aller chasser et pêcher. Mais j'aimais aussi parce qu'elle nous enseigne que nous sommes bien quand nous obéissons aux commandements. Il y a plusieurs choses que cette histoire peut nous apprendre sur la dîme. Premièrement, vous remarquerez que dans ce cas, le paiement de la dîme n'était pas lié au revenu en espèces. Les Witten ont décidé d'utiliser leur premier revenu en espèces pour payer la dîme parce qu'ils vivaient bien du produit de leur jardin et de leurs animaux. Ils sentaient manifestement qu'ils étaient redevables au Seigneur de leur bénédiction. Cela nous rappelle ce que voulait dire le Seigneur quand il a demandé « Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez. » Et vous dites « En quoi t'avons-nous trompé ?» Le Seigneur répond avec force « Dans la dîme et les offrandes. Oui, frères et sœurs, comme John et Ida Witten s'en sont rendus compte il y a une dizaine d'années, nous sommes tous redevables envers le Seigneur, que l'on ne nous accuse pas de tromper Dieu. Soyons honnêtes et payons ce que nous devons au Seigneur. Tout ce qu'il nous demande, c'est 10%. La deuxième chose que je remarque dans cette histoire, c'est que mes grands-parents ont payé la dîme. Malgré l'état précaire des finances familiales, ils connaissaient le commandement du Seigneur, ils appliquaient les Écritures à eux-mêmes et obéissaient à la loi. C'est ce que le Seigneur attend de tout son peuple. Il attend que nous payions la dîme, non celle de notre abondance, ni des restes du budget familial, mais comme il a commandé autrefois, des prémices de nos revenus, qu'ils soient faibles ou abondants. Le Seigneur a commandé, tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta vendange. Je sais par expérience personnelle que la façon la plus sûre de payer fidèlement la dîme est de payer dès que je reçois un revenu. En fait, je me suis rendu compte que c'est la seule façon. Nous apprenons de mes grands-parents Witten que la dîme n'est pas une affaire d'argent. En réalité, c'est une affaire de foi au Seigneur. Il promet des bénédictions si nous obéissons à ses commandements. Il est évident que John et Ida Witten ont fait preuve d'une grande foi en payant leur dîme. Montrons notre foi au Seigneur en payant notre dîme. Payons-la en premier. Payons-la honnêtement. Enseignons nos enfants à payer la dîme, que ce soit sur leur argent de poche ou d'autres revenus, et ensuite emmenons-les au règlement de la dîme pour qu'ils soient au courant de notre exemple et de notre amour pour le Seigneur. On peut tirer une conclusion erronée de l'histoire de mes grands-parents. On peut penser que puisque nous payons notre dîme avec de l'argent, le Seigneur nous bénira toujours avec de l'argent. C'est ce que j'avais tendance à penser quand j'étais enfant. J'ai appris depuis que cela ne fonctionne pas nécessairement ainsi. Le Seigneur promet des bénédictions à ceux qui paient leur dîme. Il promet d'ouvrir les écluses des cieux et de répandre sur nous la bénédiction d'abondance. Je témoigne qu'il tient ses promesses et que, si nous payons fidèlement la dîme, nous ne manquerons pas des nécessités de la vie. Mais il ne nous promet pas la richesse. L'argent et les comptes bancaires ne sont pas ses plus grandes bénédictions. Il nous bénit en nous donnant la sagesse de gérer nos bénédictions matérielles limitées. Sagesse qui nous permet de mieux vivre avec 90% de nos revenus qu'avec 100%. J'ai compris que les plus grandes bénédictions du Seigneur sont spirituelles et qu'elles ont souvent trait à la famille, aux amis et à l'Évangile. Il accorde souvent la bénédiction d'une sensibilité spéciale à l'influence et à la direction du Saint-Esprit, particulièrement dans le mariage et les questions familiales telles que l'éducation des enfants.
and family matters like raising children. Such spiritual sensitivity.
Ce genre de sensibilité spirituelle peut nous aider à connaître la bénédiction de l'entente et de la paix au foyer. Le président Faust a suggéré que le paiement de la dîme était une excellente assurance contre le divorce. Le paiement de la dîme nous aide à acquérir un cœur soumis et humble, un cœur reconnaissant qui a tendance à confesser à sa main en toutes choses. Le paiement de la dîme produit en nous un cœur généreux et miséricordieux, un cœur charitable, rempli d'amour, pur du Christ. Nous devenons vivement désireux de servir les autres et de leur faire du bien d'un cœur obéissant et soumis à la volonté du Seigneur. Les payeurs de dîmes fidèles voient leur foi en Jésus-Christ renforcée et ils acquièrent un témoignage ferme de son évangile et de son Église. Aucune de ces bénédictions n'est monétaire ni matérielle, à aucun point de vue, mais ce sont certainement les plus grandes bénédictions du Seigneur. Je témoigne que si nous payons fidèlement notre dîme, le Seigneur ouvrira les écluses des cieux et déversera sur nous ses plus grandes bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
The choir and congregation.
Le chœur et l'assemblée vont maintenant chanter « Vrais disciples du Seigneur ». Après ce chant, nous entendrons Lynn J. Robbins, Benjamin De Hoyos et C. Scott Grow des 70. Après leur discours, Jeffrey R. Holland du Collège des Douze Apôtres s'adressera à nous. Vous assistez à la 181e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
To be or not to be.
Être ou ne pas être. C'est réellement une bonne question. Le Sauveur a posé la question de manière beaucoup plus profonde, faisant d'elle une question doctrinale essentielle pour chacun de nous. Quel genre d'homme ou de femme devriez-vous être? En vérité, je vous le dis, tel que je suis. Pour devenir comme il est, nous devons aussi faire les choses qu'il a faites. En vérité, je vous le dis, c'est là mon évangile. Et vous savez les choses que vous devez faire dans mon Église, car ce que vous m'avez vu faire, cela même vous le ferez. Être et faire sont inséparables. Point de doctrine interdépendant, ils se renforcent et se favorisent mutuellement. Par exemple, la foi pousse une personne à prier et la prière en retour fortifie la foi de la personne. Le Sauveur a souvent dénoncé ceux qui faisaient sans être, les appelant des hypocrites. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Faire sans être, c'est de l'hypocrisie, ou c'est feindre d'être ou prétendre être ce que l'on n'est pas. Inversement, être sans faire est vide, comme la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Être sans faire, ce n'est pas vraiment être. C'est de l'aveuglement, c'est croire que l'on est bon simplement parce que l'on a de bonnes intentions. Faire sans être, l'hypocrisie, donne une fausse image de soi aux autres, alors qu'être sans faire donne une image fausse de soi-même. Le Sauveur a réprimandé les scribes et les pharisiens à cause de leur hypocrisie. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous payez la dîme, chose qu'ils faisaient, de l'amande, de la nette et du cumin. Et vous laissez ce qui est plus important dans la foi, la justice, la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Ils n'étaient pas ce qu'ils auraient dû être. Bien que reconnaissant l'importance de faire, le Sauveur considérait qu'être était ce qui est le plus important. Le fait qu'il est plus important d'être est illustré par les exemples suivants. Entrer dans les eaux du baptême est quelque chose que nous faisons. Cela doit être précédé par la foi en Jésus-Christ et par un grand changement de cœur. Prendre la Sainte Cène est quelque chose que nous faisons. Être digne de la prendre est une chose bien plus importante. Beaucoup d'entre nous font des listes de choses à faire pour se rappeler ce qu'ils veulent accomplir. Mais les gens font rarement des listes de choses qu'ils veulent être. Pourquoi? Les choses à faire sont des activités ou des événements qui peuvent être cochés quand ils sont faits, alors qu'on ne finit jamais d'être. On ne peut rien cocher avec les choses à être. Je peux emmener ma femme passer une agréable soirée ce vendredi. C'est une chose à faire. Mais être un bon mari n'est pas une activité. Cela doit être dans ma nature, dans ma personnalité ou ce que je suis. En tant que parent, quand est-ce que je peux cocher sur ma liste qu'un enfant est une chose faite? On n'a jamais fini d'être de bons parents. Et pour être de bons parents, une des choses les plus importantes à faire est d'enseigner à nos enfants comment être plus semblable au Sauveur. Les choses à être pour ressembler au Christ ne peuvent se voir, mais elles sont la force motrice derrière les choses que nous faisons qui, elles, se voient. Par exemple, quand un parent apprend à son enfant à marcher, on le voit faire des choses comme stabiliser, encourager l'enfant. Les choses qu'il fait révèlent l'amour invisible de son cœur, la foi et l'espoir invisible dans le potentiel de l'enfant. Jour après jour, il poursuit ses efforts. Preuve de cet être invisible fait de patience et de diligence. Parce que être engendre faire, et est ce qui nous pousse à faire, enseigner à être, améliorera plus efficacement notre comportement que nous le ferions en nous concentrant sur faire. Quand les gens se comportent mal, les enfants se comportent mal par exemple, qu'ils se disputent, nous faisons souvent porter par erreur notre correction sur ce qu'ils ont fait, autrement dit, sur les disputes que nous avons observées. Mais le faire est leur comportement n'est que le symptôme des motifs invisibles de leur cœur. Nous pourrions nous demander, quelles sont les qualités qui, si l'enfant les comprenait, corrigeraient ce comportement à l'avenir? Être patient et indulgent quand on l'énerve? Être aimant et pacificateur? Assumer la responsabilité de ses actes et ne pas accuser? Comment les parents enseignent-ils ces qualités à leurs enfants? Nous n'aurons jamais de plus grande occasion d'enseigner et de montrer des qualités de chrétien à nos enfants que dans la façon dont nous les disciplinons. Le mot « discipline » a la même racine que le mot « disciple ». Il implique de notre part que nous soyons patients et que nous instruisions. Cela ne doit pas se faire sous le coup de la colère. Nous pouvons et devons discipliner comme la section 121 de Doctrine Alliance nous l'enseigne, c'est-à-dire par la persuasion, la longanimité, par la gentillesse et la douceur, et par l'amour sincère, par la bonté et par la connaissance pure. Ce sont toutes des manières chrétiennes d'être qui doivent faire partie de ce que nous, parents et disciples du Christ, sommes. Grâce à la discipline, l'enfant apprend qu'il y a des conséquences. Dans ces moments-là, il est utile de transformer le négatif en positif. Demandez à l'enfant la leçon qu'il a retirée de la faute ou de la mauvaise action. Ce qui vous donne, et chose plus importante encore, donne à l'esprit l'occasion de le toucher et de l'instruire. Quand nous lui enseignons la doctrine par l'esprit, cette doctrine a le pouvoir, avec le temps, de changer sa nature même, son être. Alma a découvert ce même principe qui est que la prédication de la parole avait une grande tendance à amener le peuple à faire ce qui était juste. Oui, elle avait eu un effet plus puissant sur l'esprit du peuple que l'épée. Pourquoi ? Parce que l'épée n'avait pour but que de punir un comportement, le faire, alors que prêcher la parole changeait la nature même des gens, ce qu'ils étaient ou pouvaient devenir. Un enfant gentil, obéissant, n'inscrira son père et sa mère qu'au cours de base pour parents. Si vous avez la bénédiction d'avoir un enfant qui met votre patience à la preuve, au énième degré, vous serez inscrit au cours de perfectionnement. Au lieu de vous demander ce que vous avez pu faire de travers dans votre préexistence pour mériter cela, vous pourriez considérer l'enfant plus difficile comme une bénédiction et l'occasion de devenir plus semblable à Dieu vous-même. Avec un tel enfant, votre patience, votre longanimité et vos autres vertus chrétiennes n'ont-elles pas plus de chances d'être éprouvées, développées, affinées? Peut-être avez-vous besoin de cet enfant autant que cet enfant a besoin de vous. Nous avons tous entendu le conseil qui dit de condamner le péché, mais pas le pécheur. De la même manière, quand nos enfants se comportent mal, nous devons veiller à ne pas dire des choses qui les pousseraient à croire que ce qu'ils ont fait de mal est ce qu'ils sont. Ne laissez jamais un manquement passer d'acte à identité, avec les étiquettes qui l'accompagnent, telles que stupide, paresseux ou maladroit. Nos enfants sont des enfants de Dieu, c'est leur véritable identité et leur vrai potentiel. Son plan même est d'aider ses enfants à surmonter les erreurs et les mauvaises actions et à progresser pour qu'ils deviennent comme il est. Ainsi donc, un comportement décevant devrait être considéré comme temporaire, pas comme permanent, comme un acte, pas comme une identité. Une confusion d'identité peut aussi se produire quand nous demandons à un enfant ce qu'il veut être quand il sera grand, comme si ce qu'une personne fait pour gagner sa vie définit ce qu'il est. Ni le métier, ni les biens ne doivent définir l'identité ou la valeur personnelle. Le Sauveur était un humble charpentier, mais cela ne définit en rien sa vie. Quand nous aidons un enfant à découvrir ce qu'il est et que nous fortifions l'estime qu'il a de lui-même, nous pouvons parfaitement le féliciter pour ses réussites ou son comportement, c'est-à-dire ce qu'il fait, mais il serait encore plus avisé de concentrer de premières louanges sur sa personnalité et ses croyances, ce qu'il est. Dans le sport, une façon sage de féliciter nos enfants pour ce qu'ils réalisent, le faire, serait de le faire selon l'angle de vision de ce qu'ils sont, comme leur énergie, leur persévérance, leur sang-froid face à l'adversité, etc. Et ainsi les féliciter à la fois pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils font. Quand nous demandons aux enfants de faire des tâches ménagères, nous pouvons aussi rechercher des manières de les complimenter sur ce qu'ils sont, comme « Je suis si heureux quand tu fais des tâches de si bon cœur ». Quand un enfant reçoit son bulletin scolaire, nous pouvons le féliciter pour ses bonnes notes. Mais il se peut que de le féliciter pour sa diligence ait un impact bien plus durable. « Tu as rendu tous tes devoirs. Tu sais entreprendre et finir des choses difficiles. Je suis fier de toi ». Pendant le temps de lecture des Écritures en famille, cherchez et commentez des exemples de qualité que vous découvrez dans votre lecture de ce jour-là. Les vertus chrétiennes sont des dons de Dieu. Aussi, priez pour avoir ces dons. Au dîner, parlez occasionnellement de qualité, particulièrement de celles que vous avez découvertes dans votre lecture des Écritures ce matin-là. Comment as-tu montré que tu étais un bon ami aujourd'hui? Comment as-tu pu compter sur toi? Comment as-tu été honnête? Dans les Écritures, il y a quantité de qualités qui doivent être enseignées à prise. La manière la plus importante d'enseigner à être est d'être avec nos enfants, le genre de parents que notre Père Céleste est avec nous. Il est le Père parfait par excellence et il nous a donné son manuel de l'art d'être parents, les Écritures. Mon discours d'aujourd'hui était destiné premièrement aux parents, mais les principes valent pour tous. Puisque vos efforts pour acquérir les vertus chrétiennes sont couronnés de succès, afin que votre visage soit empreint de l'image du Christ et que ces vertus soient manifestes dans votre comportement. Alors, quand vos enfants ou d'autres personnes ressentiront votre amour et verront votre comportement, cela leur rappellera le Sauveur et les attirera vers lui. C'est là ma prière et mon témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen.
Mes chers frères et sœurs, je prie pour que le Saint-Esprit m'aide à prononcer mon discours. Au cours de mes visites et des conférences dans les pieux, les paroisses et les branches, je suis toujours rempli d'une joie profonde quand je rencontre les membres de l'Église, ceux qu'on appelle saints, aujourd'hui comme au midi des temps. Grâce à l'esprit de paix et d'amour que je ressens toujours quand je suis avec eux, je me rends compte que je suis dans l'un des pieux de Sion. La plupart d'entre eux viennent de familles membres depuis une génération ou deux, mais beaucoup d'entre eux sont des convertis récents. Nous leur répétons les paroles de bienvenue de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Il y a quelques années, alors que mon collègue et moi travaillons au service de la communication de l'Église au Mexique, on nous a invités à participer à un débat à la radio. Le but de l'émission était de parler des différentes religions du monde. On a désigné deux d'entre nous pour représenter l'Église et répondre aux questions qu'on pose lors de ce genre d'émission. Après plusieurs temps d'antenne, comme on dit à la radio, le directeur du programme a fait ce commentaire. Nous avons avec nous ce soir deux anciens de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Il a marqué une pause, puis a demandé « Pourquoi est-ce que l'Église a un nom aussi long ?» Pourquoi n'employez-vous pas un nom plus court ou plus commercial ? Mon collègue et moi avons souri à cette brillante question et nous avons commencé à expliquer que le nom de l'Église n'avait pas été choisi par l'homme. Le Sauveur l'a révélé par l'intermédiaire d'un prophète en ces derniers jours. Car c'est le nom que portera mon Église dans les derniers jours, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Le directeur du programme a répondu immédiatement avec respect. Alors, nous le répéterons avec grand plaisir. Je ne me rappelle pas combien de fois il a répété le nom significatif de l'Église, mais je me souviens qu'il y avait un bon esprit quand nous avons expliqué non seulement le nom de l'Église, mais aussi qu'il mentionne les membres de l'Église, les saints des derniers jours. Nous lisons dans le Nouveau Testament que c'est à Antioche que les membres de l'Église du Christ ont été appelés chrétiens pour la première fois, mais qu'ils se nommaient les uns les autres saints. Comme cela a dû être inspirant d'entendre l'apôtre Paul les appeler concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, et aussi appelés à être saints. Dans la mesure où les membres de l'Église vivent l'Évangile et suivent les conseils des prophètes, ils seront sanctifiés petit à petit et même sans s'en rendre compte. Les membres humbles de l'Église qui font la prière et l'étude des Écritures quotidiennes en famille, qui font l'histoire familiale et qui consacrent leur temps à se rendre fréquemment au temple, deviennent des saints. Ce sont ceux qui se consacrent à la création de familles éternelles. Ce sont aussi ceux qui libèrent du temps dans leur vie occupée pour secourir les membres qui se sont éloignés de l'Église et pour les encourager à revenir s'asseoir à la table du Seigneur. Ce sont les frères, les sœurs et les couples d'âge mûr qui répondent à l'appel à œuvrer comme missionnaires du Seigneur. Oui, mes frères et sœurs, ils deviennent saints dans la mesure où ils découvrent ce sentiment doux et merveilleux qu'est la charité ou l'amour pur du Christ. Les saints ou membres de l'Église apprennent aussi à connaître notre Sauveur dans les épreuves et les afflictions. N'oublions pas qu'il a lui-même dû souffrir toutes choses. Je cite, « Et il prendra sur lui la mort, afin de détacher les liens de la mort qui lie son peuple. Et il prendra sur lui ses infirmités, afin que ses entrailles soient remplies de miséricorde, selon la chair, afin qu'il sache, selon la chair, comment secourir son peuple selon ses infirmités. » Fin de citation. Ces dernières années, j'ai été témoin de la souffrance de nombreuses personnes, y compris de beaucoup de nos saints. Nous prions continuellement pour eux, demandant l'intervention du Seigneur, pour que leur foi ne s'affaiblisse pas et qu'ils puissent avancer avec patience. Nous leur répétons les paroles de réconfort du prophète Jacob du Livre de Mormon. Je cite, « Oh alors, mes frères bien-aimés, venez au Seigneur, le Saint. Souvenez-vous que ses sentiers sont justes. Voici, le chemin pour l'homme est étroit, mais il va en ligne droite devant lui, et le gardien de la porte est le Saint d'Israël. Et il n'y emploie aucun serviteur, et il n'y a aucun autre chemin que par la porte, car on ne peut le tromper, car Seigneur Dieu est son nom. Et à quiconque frappe, il ouvre. » Fin de citation. Quelles que soient les circonstances, les épreuves ou les difficultés qui nous entourent, notre paix et notre force nous viendront de la connaissance de la doctrine du Christ et de son expiation. Oui, frères et sœurs, cette tranquillité intérieure qui naît de l'Esprit et que le Seigneur donne à ses saints fidèles, il nourrit en disant « Je vous laisse la paix, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Fin de citation. Depuis de nombreuses années, je suis témoin de la fidélité des membres de l'Église, des saints des derniers jours qui, avec foi dans le plan de notre Père Céleste et dans l'expiation de notre Sauveur Jésus-Christ, ayant surmonté les tribulations et les afflictions avec courage et beaucoup d'enthousiasme, persévèrent et continuent ainsi sur le sentier étroit et resserré de la sanctification. Les mots me manquent pour exprimer mon estime et mon admiration à tous les saints fidèles que j'ai eu l'honneur de fréquenter. Même si notre compréhension de l'Évangile peut ne pas être aussi profonde que notre témoignage de sa véracité, si nous plaçons notre confiance dans le Seigneur, nous serons soutenus dans toutes nos difficultés, dans toutes nos épreuves et dans toutes nos afflictions. La promesse du Seigneur à ses saints n'implique pas que nous serons dispensés de souffrances ou d'épreuves, mais que nous serons soutenus quand nous les traverserons et nous saurons que c'est le Seigneur qui nous a soutenus. Mes chers frères et sœurs, c'est une grande bénédiction d'avoir été amenés à nous joindre à cette assemblée de saints des derniers jours. C'est une grande bénédiction d'avoir un témoignage du Sauveur, comme les prophètes d'aujourd'hui et d'autrefois. Je témoigne que notre Seigneur, le Saint d'Israël, vit et qu'il dirige son Église, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, par l'intermédiaire de notre prophète bien-aimé, Thomas S. Monson, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Pendant que je préparais mon discours pour cette conférence, j'ai reçu un appel téléphonique inattendu de la part de mon père. Il m'a dit que mon frère cadet venait de décéder le matin dans son sommeil. J'ai eu le corps brisé, il n'avait que 51 ans. En pensant à lui, je me suis senti poussé à vous raconter certains événements de sa vie. J'ai reçu la permission de le faire. Quand il était jeune, mon frère était beau, amical et ouvert. Il était totalement dévoué à l'Évangile. Après avoir fait une mission honorable, il a épousé sa bien-aimée au temple. Ils ont eu la bénédiction d'avoir un fils et une fille. Son avenir était prometteur. Mais ensuite, il a succombé à une faiblesse. Il a choisi un mode de vie hédoniste qui lui a coûté sa santé, son mariage et son appartenance à l'Église. Il a déménagé loin de chez lui. Il a continué son comportement autodestructeur pendant plus de 10 ans. Mais le Sauveur ne l'avait ni oublié ni abandonné. Finalement, la souffrance de son désespoir a fait naître en lui un esprit d'humilité. Sa colère, sa rébellion et son militantisme ont commencé à disparaître. Comme le fils prodigue, il est rentré en lui-même. Il a commencé à se tourner vers le Sauveur et à revenir sur ses pas. Il a emprunté le chemin du repentir. Cela n'a pas été facile. Après avoir été 12 ans en dehors de l'Église, il s'est fait rebaptiser. Ses bénédictions de la prêtrise et du temple lui ont finalement été restituées. Il a eu la bénédiction de trouver une femme qui était prête à passer outre aux problèmes de santé qui lui restaient de son ancien mode de vie. Et ils ont été scellés dans le temple. Ensemble, ils ont eu 2 enfants. Il a finalement rempli son appel dans l'épiscopat pendant plusieurs années. Mon frère est mort le lundi 7 mars au matin. Le vendredi soir précédent, sa femme et lui étaient allés au temple. Le dimanche matin, la veille de son décès, il avait fait la leçon de la prêtrise à son groupe de grands prêtres. Ce soir-là, il s'est endormi pour ne plus jamais se réveiller dans cette vie, mais pour se lever dans la résurrection des justes. Je suis reconnaissant du miracle de l'expiation qui s'est produit dans la vie de mon frère. L'expiation du Sauveur est à la disposition de chacun de nous, toujours. Nous pouvons accéder à l'expiation par le repentir. Lorsque nous nous repentons, le Seigneur nous permet de laisser derrière nous les erreurs du passé. Voici, celui qui s'est repenti de ses péchés est pardonné, et moi, le Seigneur, je ne m'en souviens plus. C'est à ceci que vous saurez si un homme se repent de ses péchés. Voici, il les confessera et les délassera. Nous connaissons tous quelqu'un qui a eu de graves difficultés dans sa vie. Une personne qui s'est égarée ou a renoncé. Ce peut être un ami ou un membre de notre famille, un des parents ou un enfant, un mari ou une épouse. Ce pourrait même être vous. Je parle à tous, à vous aussi. Je parle du miracle de l'expiation. Le Messie est venu racheter les hommes de la chute d'Adam. Dans l'évangile de Jésus-Christ, tout dirige notre attention vers le sacrifice expiatoire du Messie, le Fils de Dieu. Le plan du salut ne pouvait être réalisé sans une expiation. C'est pourquoi Dieu lui-même expie les péchés du monde pour réaliser le plan de la miséricorde, pour apaiser les exigences de la justice, afin que Dieu soit un Dieu parfait et juste, et aussi un Dieu miséricordieux. Le sacrifice expiatoire devait être réalisé par le Fils de Dieu sans péché, car l'homme déchu ne pouvait pas expier ses propres péchés. L'expiation devait être infinie et éternelle, pour couvrir tous les hommes pendant toute l'éternité. Par ses souffrances et sa mort, le Sauveur a expié les péchés de tous les hommes. Son expiation a débuté à Gethsémané, a continué sur la croix et a atteint son apogée à la résurrection. Oui, il sera mené, crucifié et mis à mort, la chair devenant assujettie à la mort, la volonté du Fils étant engloutie dans la volonté du Père. Par son sacrifice expiatoire, il a donné sa vie en sacrifice pour le péché. Étant le Fils unique de Dieu, il a hérité de pouvoir sur la mort physique. Cela lui a permis de rester en vie lorsqu'il a souffert, plus encore que l'homme ne peut en souffrir sans en mourir. Car voici, du sang lui est sorti de chaque pore. Si grande a été son angoisse pour la méchanceté et les abominations de son peuple. Non seulement il a payé le prix pour les péchés de tous les hommes, mais il a aussi pris les souffrances et les maladies de son peuple. et il a pris ses infirmités afin que ses entrailles soient remplies de miséricorde, afin qu'il sache, selon la chair, comment secourir son peuple selon ses infirmités. Le Sauveur a ressenti le poids de l'angoisse de toute l'humanité, l'angoisse du péché et du chagrin. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Par son expiation, il guérit non seulement le transgresseur, mais aussi l'innocent qui souffre à cause de ses transgressions. Si l'innocent exerce sa foi en l'expiation du Sauveur et pardonne au transgresseur, lui aussi peut être guéri. À certains moments, chacun de nous a besoin d'être soulagé des sentiments de culpabilité engendrés par les fautes et les péchés. Quand nous nous repentons, le Sauveur enlève la culpabilité de notre âme. Grâce à son sacrifice expiatoire, nos péchés nous sont remis. À part pour ce qui est des péchés de perdition, l'expiation est accessible à tout le monde, tout le temps, que le péché soit grand ou petit, à condition de se repentir. Jésus-Christ nous invite à nous repentir, afin que nous n'ayons pas à supporter tout le poids de nos propres péchés. Repens-toi, repens-toi, de peur que tes souffrances ne soient atroces, et tu ne sais pas combien elles sont atroces, tu ne sais pas combien elles sont extrêmes, oui, tu ne sais pas combien elles sont dures à supporter, car voici moi, Dieu, j'ai souffert ces choses pour tous, afin qu'ils ne souffrent pas, s'ils se repentent, mais s'ils ne se repentent pas, ils doivent souffrir tout comme moi. Et ces souffrances m'ont fait trembler de douleur, moi, Dieu, le plus grand de tous. Et elles m'ont fait saigner à chaque pore et m'ont fait souffrir de corps et d'esprit. Le Sauveur offre la guérison aux personnes qui souffrent du péché. N'allez-vous pas maintenant revenir à moi et vous repentir de vos péchés et être convertis afin que je vous guérisse? Jésus-Christ est le grand guérisseur de notre âme. À l'exception des péchés de perdition, il n'y a aucun péché, ni aucune transgression, aucune souffrance, ni aucune tristesse qui soit hors de portée du pouvoir guérisseur de son expiation. Quand nous péchons, Satan nous dit que nous sommes perdus. À l'opposé, notre Rédempteur nous offre à tous la rédemption, quoi que nous ayons fait de mal, et il offre même à vous et à moi. Quand vous réfléchissez à votre vie, voyez-vous des choses à changer ? Avez-vous fait des erreurs qui ont toujours besoin d'être corrigées? Si vous éprouvez de la culpabilité, du remords ou de la colère, je vous invite à chercher à en être soulagé. Repentez-vous et abandonnez vos péchés. Puis priez et demandez à Dieu de vous pardonner. Demandez pardon aux personnes à qui vous avez fait du tort. Pardonnez à celles qui vous ont fait du tort. Pardonnez-vous à vous-même. Allez voir l'évêque si nécessaire. Il est le messager de la miséricorde du Seigneur. Il vous aidera dans vos efforts pour devenir pur. Plongez-vous dans la prière et l'étude des Écritures. Ce faisant, vous ressentirez l'influence sanctificatrice de l'Esprit. Le Sauveur a dit, « Sanctifiez-vous, oui, purifiez-vous le cœur et lavez-vous les mains devant moi, afin que je vous rende pur. » Lorsque nous sommes purifiés par le pouvoir de l'expiation, le Sauveur devient notre avocat auprès du Père et demande, « Père, vois les souffrances et la mort de celui qui n'a commis aucun péché, en qui tu te complaisais. Vois le sang de ton Fils qui a été versé, le sang de celui que tu as donné, afin que toi-même tu sois glorifié. C'est pourquoi, Père, épargne ceci, mes frères qui croient en moi, afin qu'ils viennent à moi et qu'ils aient la vie éternelle. Chacun de nous a reçu le don du libre arbitre. Les hommes sont libres de choisir la liberté et la vie éternelle par l'intermédiaire du grand médiateur de tous les hommes, ou de choisir la captivité et la mort, selon le pouvoir du diable. Il y a des années, mon frère a utilisé son libre arbitre quand il a choisi un mode de vie qui lui a coûté sa santé, sa famille et son appartenance à l'Église. Des années plus tard, il a utilisé ce même libre-arbitre lorsqu'il a choisi de se repentir, de mettre sa vie en conformité avec les enseignements du Sauveur et de naître de nouveau par le pouvoir de l'expiation. Je témoigne du miracle de l'expiation. J'ai vu son pouvoir guérisseur dans la vie de mon frère et je l'ai ressenti dans ma propre vie. Le pouvoir guérisseur et rédempteur de l'expiation est à la disposition de chacun de nous, toujours. Je témoigne que Jésus est le Christ, le guérisseur de notre âme. Je prie pour que chacun de nous choisisse de répondre à l'invitation du Sauveur. N'allez-vous pas maintenant revenir à moi et vous repentir de vos péchés et être converti afin que je vous guérisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
I have been so moved by...
J'ai été très touché par chaque note de musique qui a été chantée et chaque parole qui a été dite. Et je prie que je puisse être inspiré dans ce que je vais dire. Avant de quitter Nauvoo, au cours de l'hiver 1846, Brigham Young a fait un rêve dans lequel un ange se tenait sur une colline en forme de cône, quelque part dans l'ouest, le doigt pointé vers une vallée en contrebas. Quand Brigham Young est entré dans la vallée du lac Salé quelques 18 mois plus tard, il a reconnu juste au-dessus de l'endroit où nous sommes réunis aujourd'hui la colline qu'il avait vue dans sa vision. Comme cela a souvent été dit à cette chaire, frère Brigham a conduit une poignée de dirigeants au sommet du mont qu'il a baptisé Ensign Peak, le pic de l'étendard, non chargé de sens religieux pour ces Israélites modernes. 2500 ans plus tôt, le prophète Ésaïe a déclaré que dans les derniers jours, la montagne de l'Éternel, de la maison de l'Éternel, serait fondée sur le sommet des montagnes et qu'il y élèverait une bannière pour les nations. Voyant dans leur place dans l'histoire l'accomplissement partiel de cette prophétie, les frères désiraient faire flotter une bannière d'une sorte ou d'une autre pour donner un sens littéral à l'idée d'étendard pour les nations. Elder Heber C. Kimball a sorti un foulard jaune. Frère Brigham l'a accroché à la canne de Willard Richards. Puis il a planté le drapeau improvisé en déclarant que la vallée du Grand Lac Salé et les montagnes environnantes étaient le lieu prophétisé à partir duquel la parole du Seigneur se répandrait dans les derniers jours. Frères et sœurs, cette conférence générale et les conférences semi-annuelles sont la continuation de cette première déclaration au monde. Je témoigne que les réunions des deux derniers jours sont une preuve supplémentaire, comme le dit notre cantique, de voix si on lève l'étendard. Et je veux dire que le mot étendard doit être compris de deux manières. Ce n'est pas hasard si la version anglaise des discours de notre conférence générale est publiée dans un magazine intitulé tout simplement « The Ensign », c'est-à-dire l'étendard. Notre conférence touche à sa fin et je vous demande de songer dans les jours qui viennent, non seulement au message que vous avez entendu, mais aussi au phénomène unique que représente la conférence générale elle-même. À ce que nous, saints des derniers jours, croyons que sont ces conférences et à l'invitation que nous lançons au monde de les écouter et d'en suivre les conseils. Nous témoignons à chaque nation, famille, langue et peuple qu'à notre époque, les conseils que vous avez entendus, que Dieu non seulement vit, mais qu'il parle, qu'en notre temps et en notre jour, les conseils que vous avez entendus se font sous la direction du Saint-Esprit, la volonté du Seigneur, la parole du Seigneur, la voix du Seigneur et le pouvoir de Dieu pour le salut. Vous savez peut-être déjà, si ce n'est pas le cas, vous devriez le savoir, qu'à de rares exceptions près, aucun homme, aucune femme qui s'exprime ici ne se voit imposer de thème. Chaque orateur doit jeûner prier et rechercher, commencer et s'arrêter et recommencer jusqu'à ce qu'il ait la conviction que son sujet est celui que le Seigneur désire qu'il traite à cette conférence en ce moment, indépendamment de souhaits ou de préférences personnelles. Chacun des orateurs, hommes ou femmes que vous avez entendus au cours des dernières 10 dernières heures de conférence générale, s'est efforcé d'être fidèle à cette inspiration. Chacun d'eux a pleuré, s'est fait du souci et a recherché avec ferveur l'inspiration du Seigneur pour qu'il guide ses pensées et ses paroles. Et tout comme Brigham Young a vu un ange se tenir au-dessus de ce lieu, moi aussi, je vois ces anges qui se trouvent à l'intérieur de ce lieu. Mes frères et sœurs qui sont ici parmi les officiers généraux de l'Église seront gênés par cette description. Mais c'est ainsi que je les vois, des messagers mortels avec des messages d'anges. Des hommes et des femmes qui ont les mêmes difficultés physiques, financières et familiales que les vôtres et les miennes, mais qui, avec foi, ont consacré leur vie à l'appel qui leur a été confié et au devoir de prêcher la parole de Dieu, pas la leur. Réfléchissez à la diversité des messages que vous entendez. Une diversité d'autant plus miraculeuse qu'il n'y a d'autre coordination que celle de l'inspiration du ciel. Mais pourquoi ne seraient-ils pas divers? La plupart de nos assemblées, visibles ou non, sont composées de membres de l'Église. Cependant, grâce aux merveilleuses nouvelles méthodes de communication, une proportion encore plus grande d'auditeurs de nos conférences n'est pas membre de l'Église. Pas encore. Nous devons donc nous adresser à des personnes qui nous connaissent très bien et à d'autres qui ne nous connaissent pas du tout. Rien que dans l'Église, nous devons parler aux enfants, aux adolescents et aux jeunes adultes, aux personnes d'âge mûr et aux personnes âgées. Nous devons nous adresser aux familles, aux parents, aux enfants, aux foyers, tout comme nous nous adressons aux personnes non mariées, sans enfants, et peut-être loin de chez elles. Au cours d'une conférence générale, nous soulignons toujours les vérités éternelles de la foi, de l'espérance, de la charité et du Christ crucifié, tout comme nous parlons franchement de questions morales très précises de notre époque. Il nous est commandé dans les Écritures de ne parler que de repentir à cette génération, tout en prêchant de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés et penser ceux qui ont le cœur brisé. Quelle que soit la forme qu'ils prennent, ces messages de conférence proclament la liberté aux captifs et annoncent les richesses incompréhensibles de Christ. La grande diversité des sermons donnés présuppose qu'il y aura quelque chose pour tout le monde. À cet égard, je pense que c'est le président Harold Billy qui l'a le mieux exprimé quand il a dit « Apparemment, l'Évangile est là pour réconforter les affligés et affliger ceux qui sont confortables. » Nous cherchons toujours à ce que notre enseignement à la conférence générale soit aussi généreux et accueillant que celui donné à l'origine par le Christ, nous souvenant, comme nous le faisons, de la discipline inhérente à ces messages. Dans le sermon le plus célèbre qui a été donné, Jésus a commencé en prononçant des bénédictions merveilleusement douces que chacun de nous veut avoir. Des bénédictions promises à ceux qui sont pauvres en esprit, qui ont le cœur pur, qui proclament la paix et qui sont débonnaires. Comme ces béatitudes sont édifiantes et comme elles sont apaisantes pour l'âme, elles sont vraies. Mais dans le même sermon, le Sauveur poursuit en montrant à quel point le chemin de celui qui procure la paix et de celui qui a le cœur pur devient de plus en plus étroit. il fait remarquer, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. » Mais moi, je vous dis, que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et de même, vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras point d'adultère. » Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. À l'évidence, à mesure que le disciple gravit le chemin, le sentier devient de plus en plus étroit jusqu'à ce qu'il arrive, les jambes tremblantes, à ce point culminant du sermon qui déclare « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Ce qui était doux dans les plaines de la loyauté des débuts devient profondément ardu et exigeant au sommet du chemin du véritable disciple. Il est clair que quiconque pense que Jésus a enseigné une théologie de la non-faute, n'a pas lu les petits caractères du contrat. Non, quand il s'agit d'être disciple, l'Église n'est pas un lieu de restauration rapide. Nous ne pouvons pas toujours faire ce que nous voulons. Un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est le Christ, et qu'on ne peut obtenir le salut qu'à sa manière. Soyez assurés que dans notre volonté d'être strict et apaisant, à la fois en conférence générale, lorsque nous traitons de sujets difficiles, nous sommes conscients que tout le monde ne regarde pas de la pornographie, ne fuit pas le mariage, ou n'entretient pas des relations sexuelles illicites. Nous savons que tout le monde ne viole pas le sabbat, ne porte pas de faux témoignages, ni ne maltraite son conjoint. Nous savons que la plupart des personnes qui nous écoutent ne sont pas coupables de telles choses. Mais nous avons le devoir solennel de mettre en garde ceux qui le sont, où qu'ils soient dans le monde. Si donc vous vous efforcez de faire de votre mieux, si, par exemple, vous continuez d'essayer de faire la soirée familiale en dépit du chahut qui règne parfois dans une maison de jeunes chahuteurs, alors donnez-vous une excellente note quand nous abordons ce sujet et attendez le suivant qui en abordera un autre où vous êtes peut-être déficient. Si nous enseignons par l'esprit, et que vous écoutez par l'Esprit, l'un d'entre nous évoquera votre situation, vous envoyant directement une épître personnelle d'un prophète. Juste pour vous. Frères et sœurs, en conférence générale, nous offrons notre témoignage parallèlement à d'autres qui viendront par la suite, parce que, d'une manière ou d'une autre, Dieu fera entendre sa voix. Le Sauveur a dit à ses prophètes, « Je vous envoie témoigner et avertir le peuple. » Et après votre témoignage, vient le témoignage des tremblements de terre, de la voix des tonnerres, des éclairs, des tempêtes, et de la voix des vagues de la mer se soulevant au-delà de leurs limites. Des anges crieront d'une voix forte, sonnant de la trompette de Dieu. Ces anges mortels qui viennent à cette chair font chacun à leur manière sonner la trompette de Dieu. Chaque sermon est toujours, par définition, à la fois un témoignage et un avertissement, tout comme la nature elle-même nous rendra témoignage avec amour et nous avertira en ces derniers jours. Dans un instant, le président Thomas S. Monson viendra à cette chaire pour clore cette conférence. Permettez-moi de dire quelque chose de personnel concernant cet homme bien-aimé, qui est le doyen des apôtres et le prophète pour l'époque à laquelle nous vivons actuellement. Au vu des responsabilités que j'ai décrites, il est évident que la vie des prophètes n'est pas facile et celle du président Monson ne l'est pas. Il en a parlé hier soir très spécifiquement. Quand il a été appelé à l'apostolat, à 36 ans, ses enfants avaient respectivement 12, 9 et 4 ans. Sœur Monson et ses enfants ont donné leur mari et leur père à l'Église et à ses devoirs, et ce, pendant plus de 50 ans maintenant. Ils ont enduré les maladies, les exigences, les coups et les meurtrissures de la condition mortelle, ceux que tout le monde affronte, et dont certains les attendent encore certainement. Mais le président Monson les traverse avec une bonne humeur irrépressible. Rien ne l'abat. Sa foi et sa vitalité sont remarquables. Président, au nom de toute cette assemblée, vue et non est invisible, je déclare que nous vous aimons et que nous vous honorons. Votre dévouement est un exemple pour nous tous. Nous vous remercions de nous diriger. 14 autres détenteurs de l'appel apostolique, plus d'autres personnes sur cette estrade, celles qui sont assises dans cette assemblée devant nous, et les légions de personnes rassemblées de par le monde vous aiment, vous soutiennent et vous épaulent dans cette œuvre. Nous rendrons votre fardeau plus léger de toutes les manières. Vous êtes l'un de ces messagers célestes, appelés avant la fondation du monde pour brandir l'étendard de l'Évangile de Jésus-Christ au monde entier. Vous le faites de manière magnifique. C'est de cet Évangile qui est annoncé et du salut qu'il apporte et de celui qui l'apporte, dont je témoigne en ce grand et glorieux nom rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ. Amen.
As we conclude the conference,
à la fin de cette conférence, nous remercions le cœur du tabernacle, le chœur mixte de l'Université Brigham Young Idaho et le chœur de la prêtrise des instituts d'Ogden et de Logan, ainsi que leur directeur et organiste, de la belle musique inspirante qu'ils ont interprétée. Nous remercions également toutes les personnes qui ont participé de différentes manières à ces sessions. Le dernier orateur de cette session sera Thomas S. Monson, notre prophète bien-aimé. Après le discours du président Monson, le chœur chantera le cantique de clôture « Ah, donne-moi, Père ». Ensuite, Ken D. Watson, des 70, fera la prière de clôture.
My brothers and sisters,
mes frères et sœurs, mon cœur déborde à la fin de cette conférence. Nous avons ressenti l'Esprit du Seigneur en grande abondance. J'exprime mes remerciements et ceux des membres de l'Église de partout, à toutes les personnes qui ont participé, y compris à ceux qui ont fait des prières. Puissions-nous nous rappeler les messages que nous avons entendus. Quand nous recevrons les numéros de l'Ensign et du Niona, qui contiendront ces messages par écrit, puissions-nous les lire et les étudier. Une fois encore, la musique de toutes les sessions a été magnifique. J'exprime ma reconnaissance personnelle envers les personnes disposées à nous faire profiter de leurs talents. Elles nous ont touchés et inspirés. Nous avons soutenu en levant la main des frères qui ont été appelés à des nouveaux postes pendant la conférence. Nous tenons à ce qu'ils sachent que nous sommes impatients d'œuvrer avec eux dans la cause du Maître. J'exprime mon amour et mon estime à mes conseillers dévoués, les présidents Eyring et Uchtdorf. Ce sont des hommes d'une grande sagesse et d'une grande compréhension. Leur service est inestimable. J'aime et soutiens mes frères du Collège des Douze Apôtres. Ils servent avec une très grande efficacité et ils sont entièrement dévoués à l'œuvre. J'exprime aussi mon amour aux membres des 70 et de l'épiscopat président. Nous rencontrons de nombreuses difficultés dans le monde aujourd'hui, mais je vous assure que notre Père Céleste ne nous oublie pas. Il aime chacun de nous et il nous bénira si nous faisons appel à lui par la prière et nous efforçons de respecter ses commandements. Nous sommes une Église mondiale. Les membres de notre Église se trouvent partout dans le monde. Puissions-nous être de bons citoyens du pays dans lequel nous vivons et de bons voisins dans notre collectivité, en nous tournant vers les personnes d'autres confessions comme ceux qui font partie de la nôtre. Puissions-nous être des exemples d'honnêteté et d'intégrité partout où nous allons et dans tout ce que nous faisons. Mes frères et sœurs, merci de vos prières en ma faveur et en faveur de toutes les autorités générales de l'Église. Nous sommes profondément reconnaissants de tout ce que vous avez fait et continuez à faire pour promouvoir l'œuvre du Seigneur. Soyez prudents en rentrant chez vous. Que les bénédictions du ciel accompagnent chacun de vous. À présent, avant de partir ce soir, je tiens à exprimer mon amour du Sauveur et ma reconnaissance pour son grand sacrifice expiatoire pour nous. Dans 3 semaines, toute la chrétienté célébrera Pâques. Je crois que nul d'entre nous ne peut concevoir toute la portée de ce que le Christ a fait pour nous à Gethsémané. Mais chaque jour de ma vie, je suis reconnaissant de son sacrifice expiatoire pour nous. Au dernier moment, il aurait pu faire demi-tour, mais il ne l'a pas fait. Il est descendu en dessous de tout afin de pouvoir tout sauver. Ce faisant, il nous a donné la vie au-delà de cette existence mortelle. Il nous a rachetés de la chute d'Adam. De toute mon âme, je lui suis reconnaissant. Il nous a appris à vivre. Il nous a appris à mourir. Il a assuré notre salut. Pour conclure, je vais vous dire les paroles touchantes écrites par Emily Harris, qui décrivent si bien ce que je ressens à l'approche de Pâques. Le suaire qui l'enveloppait est vide. Il est déposé là, blanc et propre. La porte est ouverte. La pierre est roulée. Il me semble entendre les anges chanter ses louanges. Le suaire n'a pu le retenir. La pierre n'a pu le retenir. Les mots résonnent dans le sépulcre vide. Il n'est point ici. le sphère qui l'enveloppait est vide. Il est déposé là, blanc et propre. Alléluia, il est vide. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
Thank you.
Our dearest Heavenly Father,
notre cher Père Céleste, à la fin de cette conférence glorieuse, nous t'exprimons notre amour et notre reconnaissance pour ta bonté. Nous te remercions pour ton Fils. Nous sommes reconnaissants, Père Céleste, pour le rétablissement de l'Évangile. Nous te remercions pour un prophète. Nous prions que tu bénisses le président et Sœur Monson et leur famille. La première présidence et le collège des 12. Nous sommes reconnaissants pour la présence du Consolateur. Et nous prions que nous puissions prendre ces messages que nous avons entendus de cette conférence. Où que nous vivions, où que nous soyons, que nous puissions être édifiés, fortifiés, et que nous puissions nous fortifier les uns les autres en proclamant l'Évangile et en prenant soin des pauvres et de ceux qui sont dans le besoin. Nous faisons une prière spéciale pour ceux qui sont dans le besoin en ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 100th.
Vous venez d'assister à une session de la 181e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.